Je voulais, pour introduire ce message, vous raconter une petite histoire, ou du moins le début. Et on continuera un peu plus tard. Nous sommes au début du XVIIIe siècle, dans les années 1725. Là, un jour, un jeune homme frivole, le comte de Zinzendorf, certains le connaissent peut-être, quitte le château de Zeist en Hollande, où résident ses parents, pour se rendre à Paris et Versailles, où l'attendent de brillantes réceptions mondaines. C'est quelqu'un qui est intelligent, très cultivé, qui ne manque de rien. Il a beaucoup d'argent et il profite des joies du monde. En passant à Düsseldorf, tandis qu'on soigne ses chevaux, le jeune comte va visiter le musée de peinture. Un tableau retient son attention. C'est le Christ en croix du peintre Steinberg. Alors, je n'ai pas trouvé l'original de ce tableau. Je vous en ai mis un autre, mais vous pouvez imaginer le Christ en croix. Et là, le jeune homme s'arrête. Il contemple le visage douloureux du crucifié. Les souffrances du Sauveur touchent profondément son cœur. Au bas de la toile, le peintre avait inscrit ces mots : « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Oui, cette phrase choc changera la vie de ce jeune homme. Mais nous lirons la fin de l'histoire, comme je vous l'ai dit, un peu plus tard. Vous tenir en haleine. Et pour toi, que change cet événement incroyable, unique dans l'histoire ? La mort de Jésus-Christ à la croix. Cet acte d'amour fou. Lui, homme, Dieu, parfait, meurt à ma place. À ta place, pour me permettre de me réconcilier avec mon Créateur, Dieu le Père. Depuis que nous étudions Jacques, qui est un petit livre, 5 chapitres seulement, mais ô combien concentré, vous l'avez remarqué, de plein de choses pratiques dans notre marche quotidienne avec le Seigneur, nous avons en fait en permanence mis en évidence ce que cet événement a changé et doit changer dans ma vie. Et avant de continuer, je vous invite à prier. Oui Seigneur, merci pour la Bible, ta parole, ce cadeau précieux, cet outil formidable que nous avons à disposition, que nous pouvons lire, que nous pouvons étudier. Seigneur, je te prie que ce que nous lisons, ce que nous entendons, ne reste pas juste des mots, mais que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous demandes. Que nous puissions t'obéir, parce que toi, tu sais ce qui est le mieux pour nous. Que nous puissions être attentifs et changer ce qui doit être changé dans nos vies. En ton nom, Seigneur. Amen. Et je vous invite à prendre la lecture donc dans Jacques, on continue notre parcours, dans Jacques 4, les versets 13 à 17. Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Nous avons mis en évidence depuis notre cheminement dans ce livre l'existence de 2 systèmes diamétralement opposés. Un système que je dirais le système du monde, et dont le prince n'est autre que Satan lui-même, et qui veut nous faire croire à des mensonges. Et le deuxième que je nommerai le royaume de Dieu, dont le prince en est le Christ, justement, celui qui s'est donné pour moi, et qui nous a montré la voie à suivre lorsqu'il était sur cette terre. Nous sommes dans tous les exemples que nous avons déjà abordés, toujours en lutte entre la manière dont fonctionne le monde et la manière dont fonctionne le royaume de Dieu. Rappelez-vous, dans nos relations avec les autres, dimanche dernier, Josué nous rappelait que le système du monde nous pousse à critiquer, juger, rabaisser l'autre, s'élever soi-même à tout prix. Tu ne peux compter que sur toi-même, alors ne tiens pas compte des autres. En face de cela, que nous dit le royaume de Dieu ? Aime ton prochain comme toi-même. Pour nos désirs, rappelez-vous, au début du chapitre 4, Jacques nous mettait en garde de nos mauvais désirs. Que nous dit le système du monde ? Pense à toi, fais-toi plaisir. Ce qui entraîne quoi ? La convoitise, la jalousie, les disputes, le meurtre même. À quoi s'oppose le royaume de Dieu ? Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Pareil, nous avons vu au chapitre 3 la sagesse. D'où vient la sagesse d'après le système du monde ? Eh bien de l'homme. Elle valorise l'homme, la personne, l'ego. Elle développe un esprit de rivalité, va aboutir aux querelles, à la jalousie de nouveau, au désordre, à des pratiques mauvaises. Et face à cela, qu'oppose le royaume de Dieu ? La sagesse, d'où vient-il ? D'où vient-elle ? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Elle vient de Dieu, elle est pure, elle aime la paix. Elle se traduit par des actes empreints d'humilité. Aujourd'hui, Jacques va nous parler de nos biens, des richesses, de l'argent. Et dans ce domaine, que nous dit le système du monde ? Au verset 13, « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Les affaires, faire des richesses, les accumuler. Le système nous dit « acheter, vendre ». Et je peux vous assurer que dans un tel système, il n'y a pas 36 issues. Soit vous devenez réellement riche, dans le sens du monde, en avoir, mais là nous savons très bien qu'au final il n'y en a que très peu qui le deviennent, soit vous vous endettez. Pas 36 issues. Et que dit la parole de celui qui s'endette ? Proverbe 22, 7. Le riche domine le pauvre, et celui qui emprunte se met sous la coupe de son créancier. Que nous dit le royaume de Dieu ? On trouve une partie de la réponse au dernier verset d'aujourd'hui, au verset 17. Que dit Jacques ? Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. En d'autres termes, si tu n'utilises pas tes biens, tes richesses, pour faire le bien justement, tu rates la cible. Péché, ça veut dire rater la cible. Tu manques l'objectif de Dieu. Et là, Jésus lui-même donnera la vision du royaume de Dieu dans ce domaine, bien particulier, au moment de son sermon sur la montagne, Luc 6, 38. Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Face au acheter-vendre de ce monde, le Seigneur oppose diamétralement donner, recevoir. Voilà ce que le malin ne veut pas que nous comprenions. Et dans les différents domaines dont nous avons parlé à l'instant, nos luttes, nos chutes, nos épreuves viennent justement de cette opposition permanente entre le mensonge du système de ce monde et ce que nous dit le royaume de Dieu. Et Satan veut nous faire croire à cela, même si nous sommes chrétiens, et je dirais même surtout si nous sommes chrétiens. Il veut nous faire croire, à nous enfants de Dieu, que nous ne pouvons pas échapper au système de ce monde. Il veut nous faire croire que nous sommes que partiellement libérés de ce système, ce qui est évidemment complètement faux. Nous devons croire, prendre et vivre les vérités du royaume de Dieu, car nous avons été libérés du système de ce monde. Par qui ? Par Jésus. Par Jésus. Dans Jean 8, Jésus dira, en parlant de lui-même, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. » Nous reviendrons encore un peu plus en détail sur la gestion de nos biens, de l'argent, dans une troisième partie. Mais nous allons voir maintenant ce qui touche un peu au cœur de notre texte et dont découlent beaucoup de choses dans notre vie pratique. Relisons les versets 14 à 16. « Savez-vous ce que demain vous réserve ? Qu'est-ce que votre vie ? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. » J'ai intitulé ce deuxième point « Si Dieu veut ». Et je pense qu'on touche là à un point central. D'ailleurs, le verset 15 est au centre de notre texte. Cette expression d'ailleurs, « si Dieu veut », est souvent très, très mal utilisée. De manière fataliste, un peu comme un genre de secours éventuel qui ne viendra peut-être jamais. « Oh là, j'ai vraiment pas bien réussi mes examens là. Je le sens pas. Mais si Dieu veut, je l'aurai peut-être quand même. J'ai ce problème, cette maladie qui me touche depuis si longtemps maintenant. Personne ne sait, pas de solution. Mais si Dieu veut, peut-être que je serai guéri. » En ce moment, je galère, j'ai du mal à joindre les deux bouts, je ne sais pas comment je vais finir le mois. Mais si Dieu veut, il peut m'aider. On fait un peu appel à ce « si Dieu veut » comme une dernière chance de quelque chose qui n'arrivera certainement pas. C'est comme si on croyait à ce que le monde appelle le destin. Voilà, c'est comme ça. En fait, quand on dit ça, on prend la phrase à l'envers. J'ai en tête de vivre comme ça, d'avoir tel projet dans ma vie, de faire ci, de faire ça. Même souvent des choses très louables, hein, spirituelles, visiblement bonnes. Et lorsque cela ne se passe pas comme je l'imagine, eh bien vient la phrase magique. Mais si Dieu veut, ce sera possible. Alors évidemment que les miracles existent, arrivent même. Mais et si nous prenions cette phrase dans le bon ordre? Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Autrement dit, cherchons d'abord ce que Dieu veut. Cherchons à savoir ce que le Seigneur veut pour nous. Et alors nous recevrons ce que nous demandons. Nous devons entrer dans l'appel de Dieu pour nous. Que veut Dieu pour nous? Il veut que nous soyons restaurés, libérés du système de ce monde, que nous revenions dans l'intimité dans laquelle se trouvaient l'homme et la femme dans le jardin, avant la chute. Il veut notre bien, non notre malheur. Il veut que dans tout ce que nous fassions, entreprenions, nous soyons totalement dépendants de lui, de ce qui est le mieux pour nous, afin de lui rendre gloire, que son nom soit glorifié. Combien de frères et de sœurs vivent leur vie de chrétiens en tant qu'hommes après la chute et refusent de croire qu'ils sont libérés des conséquences de la chute par Jésus lui-même, mort à la croix et vainqueur du péché et de la mort. Quelle était notre situation d'homme avant la chute? Concernant le travail, par exemple. Car en fait, en parlant d'affaires, Jacques ici, de richesses, d'argent, Jacques touche aussi à notre situation de travailleur. Quel était le travail d'Adam et Ève dans le jardin? Quel était le travail d'Adam et Ève dans le jardin? Prendre soin du jardin. Dieu a donné la gérance de la terre à l'homme. Et je peux vous dire que ce n'était pas une mince affaire, hein, gérer la terre. Mais rien de pénible. L'homme et la femme faisaient cela avec plaisir, pour Dieu, avec Dieu, en étant pleinement épanouis. Ils ne manquaient de rien, absolument rien. Nourriture, vie, etc., etc., parfaitement comblés dans tous les domaines. Dieu a même laissé une liberté à ses enfants d'obéir, de faire le bien, ou pas, de désobéir même. Et nous savons que Satan, sous forme de serpent, est venu semer le doute dans ce paradis et a poussé l'homme et la femme à désobéir à Dieu. En mangeant de l'arbre de connaissance de bien et du mal, le péché est entré dans le paradis. Qu'a dû faire Dieu? Chasser l'homme de ce jardin. Le péché ne peut pas subsister dans le paradis. Et Dieu a maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Le travail est toujours là, mais la conséquence de la chute est la pénibilité de ce travail. Mais quelle est la bonne nouvelle pour nous? Quelle est la bonne nouvelle pour nous? C'est que Jésus est venu pour nous libérer. Luc 4, 18 à 21. Jésus, il est dans la synagogue. Il lève la main pour lire les Écritures. Et voilà ce qu'il lit dans Ésaïe. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, aujourd'hui même, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Ce n'est pas une espérance quelconque dont parle Jésus par rapport à la libération des captifs du monde que nous étions. C'est une réalité qui a commencé lors de sa venue sur cette terre. Et ceci vaut aussi pour les conséquences de notre travail, à savoir le travail pénible à la sueur de notre front. La venue de Jésus nous libère également de cela. Par Christ, nous ne sommes plus sous la situation de l'homme déchu qui doit suer pour manger du pain. Beaucoup d'enfants de Dieu sont restés dans cette situation d'hommes déchus d'après la chute et vont piocher à la sueur de leur front dans un métier, un service qui n'est pas le leur, qui ne leur convient pas, qui ne répond pas à leurs capacités, qui ne fait pas plaisir. Et ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Nous devons travailler, que ce soit dans un travail séculier dans ce monde, ou même pour le service à plein temps pour le Seigneur, car Dieu est un travailleur. Mais je ne dois pas faire n'importe quoi. Je ne dois pas me dire, je fais ce travail parce que j'en ai besoin pour vivre. Et si je galère et prends pas de plaisir, eh ben c'est normal, puisque c'est à la sueur de mon front que je dois manger mon pain. Non, voilà encore un mensonge auquel veut nous faire croire Satan. Nous sommes appelés à entrer dans l'appel de Dieu, sous forme de travail, de ministère, peu importe. Et alors ce travail deviendra un plaisir pour servir Dieu là où il m'aura placé. Je suis peut-être même appelé à servir de différentes manières au cours de ma vie. Je vais peut-être commencer dans un travail séculier, peut-être même dans un deuxième. Puis je serai peut-être appelé à un service à plein temps pendant un certain moment. Puis je reviendrai peut-être nouveau dans un travail séculier. Ou peut-être que je ferai la même chose toute ma vie. Je ne sais pas. Dieu appelle chacun différemment. Je vais vous raconter mon expérience personnelle lors du choix de mon premier travail. J'étais parti, comme vous le savez peut-être, pour la plupart, dans une des études de biologie, pour devenir professeur de sciences naturelles, SVT maintenant, et de pouvoir aussi me dégager du temps pour le service pour le Seigneur lors des différents congés qu'ont les professeurs. Donc un plan qui semble tout à fait louable, correct. Voilà, un métier, du temps pour le Seigneur, cool. Et puis j'ai passé une première fois le concours pour devenir professeur pendant notre année préparatoire. Alors les profs nous avaient prévenu, attention, vous allez le passer une première fois, vous ne l'aurez pas parce qu'on n'aura pas vu tout le programme, etc. Mais faites-vous une première expérience. Donc j'y suis allé, j'ai réussi quand même les écrits, je suis allé aux oraux, que j'ai loupé. Mais ça m'a rendu admissible et m'a donné par là même l'occasion d'exercer déjà en tant que remplaçant. Et donc j'ai pendant un certain temps exercé en tant que remplaçant, ce qui me donnait l'occasion de voir quel était ce métier. Et vous pouvez demander à Tania, je n'ai, je crois, jamais dans mon expérience vécu une année aussi compliquée, une année aussi stressante, où je n'étais pas bien, au point que je ne dormais pas certaines nuits en sachant quelle classe j'avais le lendemain. Les vacances scolaires me permettaient à peine de me reposer. Bref, pas agréable du tout, ni pour Tania, ni pour moi, ni pour les autres. Je repassais quand même une deuxième fois le concours, après une année d'armée. Et cette année-là, j'avais mis toutes les chances de mon côté. J'avais vraiment bien bossé, j'étais prêt. J'ai réussi mes écrits, je suis allé aux oraux à Paris. Et lorsque je suis sorti, j'ai appelé Tania et je lui ai dit, c'est bon. J'ai eu le sujet que je voulais, que j'aimais. C'était génial, j'ai fait mon cours, super. Si je ne l'ai pas cette année, je ne le repasserai plus. Les résultats tombent. Et avec le jeu des coefficients, il me manquait un demi-point pour être admis. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai pendant un certain temps eu de l'incompréhension, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai même eu de la colère envers le Seigneur. J'ai dit, mais punaise, ce demi-point c'était ta part, tu ne pouvais pas me le donner. Mais non, ce n'était pas l'appel de Dieu pour moi. Il m'avait pourtant montré que ce métier ne me rendait pas heureux. Mais on est têtu en tant qu'homme. Et je n'ai pas eu à attendre très longtemps, puisque quelques jours après, j'ai eu un coup de fil d'un aquarium public qui cherchait un biologiste pour son parc, à qui j'avais une fois envoyé un CV pour un job d'été, et ils l'avaient gardé. Et ils m'ont demandé, est-ce que vous cherchez par hasard du travail? On cherche un biologiste. J'ai accepté, et je me suis plu dans ce travail, je me suis épanoui. J'ai pu même servir le Seigneur encore à côté, malgré les contraintes de ce travail. Nous ne devons pas prendre un travail comme un besoin, une nécessité, mais comme un appel de Dieu de la place qu'il réserve pour nous. Et nous ne devons pas nous soucier du combien, du comment, car le Seigneur pourvoit à tous nos besoins. Quand Dieu commande quelque chose, il paye aussi. Il permettra que nous puissions en vivre. On ne doit pas travailler pour l'argent prioritairement. Travailler, oui, mais pour rentrer dans l'appel de Dieu. La question à se poser est, où veut-il que nous soyons? Et l'argent deviendra alors le fruit de notre appel, pas la raison de mon travail, mais le fruit de mon appel. Ça change tout. Demandez à Wendy, par exemple, ou à Josué, s'ils travaillent dans leur ministère par contrainte, par besoin, ou bien s'ils se sentent en paix, à leur place dans leur ministère. s'ils prennent du plaisir à servir Dieu dans leur domaine. Croyez-vous que s'ils ne prenaient pas du plaisir à servir, ils le feraient encore? Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas toujours facile. Non, il y a des épreuves, et Wendy nous en a fait part récemment. Mais ces épreuves n'enlèvent en rien la paix de se savoir à la place que Dieu nous donne. Paul lui-même, combien de fois n'a-t-il pas été mis en prison? Et pourtant, il a toujours pu dire qu'il était heureux de servir le Seigneur là où il le plaçait. Et il n'a jamais manqué de rien. Regardez le nombre de lettres qu'il a écrites pendant sa captivité. Si tu n'as pas la paix de Dieu dans ton travail, ton service, si tu travailles à la sueur de ton front pour subvenir à tes besoins, fais la prière suivante. Dieu, montre-moi quel est l'appel que tu as pour moi. Voilà une démarche qui change complètement notre manière d'aborder le travail et le pourquoi du travail. Maintenant, comme déjà dit, Jacques s'intéresse aussi à ce que nous faisons, comment nous gérons nos biens. Et c'est la troisième et dernière partie, la gestion de nos biens. Nous sommes avec Tania en train de suivre une formation sur justement les biens, la gestion des biens, de l'argent. Et autant nous avions compris certaines choses, autant nous avons découvert une manière tellement différente d'aborder cette thématique en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et je peux vous dire que ça vous remet en place. Ça demande de s'humilier même parfois. Mais qu'est-ce que c'est libérateur? Et cette thématique des biens de l'argent est une thématique souvent taboue chez nous, dans nos familles, ici, dans l'Église. Alors que tellement abordée dans la Bible, c'est un sujet qui intéresse Dieu. Savez-vous qu'on peut trouver 2300 versets qui parlent de biens, de richesses, d'argent dans la Bible? C'est 10 fois plus de versets que ceux qui parlent de la foi ou du salut. Ça ne veut pas dire que c'est plus important que le salut, pas du tout. Mais montre que Dieu se préoccupe de cela, que ce n'est justement pas un sujet tabou et pour lequel on a, en tant qu'homme, certainement tellement à apprendre. Dans notre passage au verset 14, on lit « Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. » Jacques dénonce encore une fois la manière dont fonctionne le système de ce monde par rapport à la propriété. Le monde nous dit, c'est à toi, c'est à moi, ma maison, ma voiture, mon argent, ma femme, mon mari, mes enfants. Tu as gagné ton argent toi-même, tu en fais ce que tu veux. C'est à toi. Ce que tu possèdes t'appartient et c'est toi seul qui en décide. Que dit le royaume de Dieu? Tout appartient à Dieu. Nous ne sommes que les gérants des biens que Dieu nous a confiés. Dieu en est le seul propriétaire. Dans Psaume, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Là encore, dans le système du monde, c'est un mensonge que veut nous faire croire Satan. Ou plus précisément, un de ses esprits. Parce qu'il a un esprit qu'il s'occupe que de ça, H24, de tout ce qui concerne les biens et l'argent. Cet esprit s'appelle Mammon, pour le nommer. Il ne fait que ça. Nous faire croire que c'est ce système qui prévaut. Et pour illustrer ce mensonge que dénonce Jacques, Jésus racontait une formidable parabole dans Luc 12, que vous connaissez certainement. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai les greniers, j'en construirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, « Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit quoi à ses disciples ensuite? « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez habillé. » La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux, ils ne sèment et ne moissonnent pas. Ils n'ont ni cave ni grenier et Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Une autre question que pose cette parabole et le verset de Jacques, c'est notre dépendance. De qui dépendons-nous? Que nous dit le monde? Je dépends, on dépend de son emploi, de ses capacités, de sa santé, de ses finances, de l'État, de notre rente, de notre assurance, etc., etc. Là encore, Mammon nous ment et nous fait croire cela. À nous aussi qui sommes enfants de Dieu et pourtant libérés de tout ça. Il veut nous convaincre que même nous, nous restons dépendants de ce système du monde. Dépendants de l'argent, des richesses et des choses qui semblent pouvoir nous assurer une paix et un avenir tranquille dans ce monde. Mais que dit le royaume de Dieu ? Dieu pourvoit à tous nos besoins. Vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, 2 Corinthiens 9:8. Nous allons, et vous l'avez remarqué, vers des temps difficiles, sombres. L'endettement règne, tout le reste, ça va mal, le commerce, etc. Il est donc tellement important de savoir de qui on dépend. Alors, ce n'est pas facile, surtout si on est dans une situation difficile. Comme nous faisons un pas de foi envers Dieu, en croyant que le sacrifice de Jésus nous sauve, là aussi, nous devons faire un pas de foi et croire en ce que la parole nous dit. Croire que Dieu a cette capacité de pourvoir à tous nos besoins. La Bible nous rappelle que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde et nous n'en dépendons donc pas. Et finalement, que peut-on vouloir de plus que tous nos besoins ? Mais ce qui est absolument extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il ne se contente pas du service minimum. Si on lit le verset 2 Corinthiens 9:8 en entier, parce que je ne l'ai pas lu en entier tout à l'heure, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez, en tout temps et en toute chose, tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Voilà ce que nous rappelle aussi Jacques à la fin de notre passage au verset 17. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Faire le bien dans le cas de ce qu'on possède, de notre argent, nos richesses, c'est les utiliser pour le Seigneur, pour aider, pour soutenir, pour faire ces œuvres bonnes dont parle Paul. Mais là aussi, j'aimerais nous mettre en garde. Et je parle donc aussi pour moi, comme pour tout le reste de ce message d'ailleurs. Paul n'est pas en train de dire que nous devons donner que de notre superflu, une fois que tous nos besoins sont comblés. S'il me reste du superflu, ben j'en donnerai au Seigneur pour les œuvres bonnes. Et s'il ne me reste rien, eh ben je donne rien. Non, ceci est un mauvais raisonnement, une erreur de compréhension de cette phrase. Paul est en train de dire que quelle que soit ma situation, facile, difficile, Dieu comble tous mes besoins. Et en plus, il me donne de quoi donner pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Et en plus, il me donne. Donc en d'autres termes, mes frères et sœurs, si nous ne sommes pas en mesure de donner ce que Dieu nous a donné en plus pour les œuvres bonnes, c'est que nous gérons mal nos biens. C'est que nous évaluons mal nos besoins. Je répète, si nous ne sommes pas en mesure de donner ce que Dieu nous a donné en plus pour les œuvres bonnes, c'est que nous gérons mal nos biens. C'est que nous évaluons mal nos besoins. Est-ce qu'on est capable de se contenter de ce que nous avons besoin ? Ou bien est-ce que je suis tenté d'avoir le petit truc en plus ? Le dernier gadget, le dernier téléphone, la plus belle maison, la dernière voiture à la mode, les derniers habits ? De partir au dernier coin à la mode en vacances, et nous pourrions tous rajouter un bon nombre de choses à cette liste auxquelles vous pensez en ce moment même. Mais je peux aussi me contenter d'une voiture adaptée à mes besoins, qui fonctionne, m'emmène là où il faut. Et ce que le Seigneur me donne en plus me sert pour les œuvres bonnes. Ou même, je peux même utiliser ma voiture pour des œuvres bonnes. Est-ce que je peux me contenter d'une paire de chaussures sans marque, convenable ? Et la différence avec la paire de bip, je la consacre aux besoins de mon église, de mon prochain, de celui qui en a besoin. Et nous pourrions multiplier à l'infini les exemples. De qui dépendons-nous ? Comment est-ce que je gère les biens que Dieu me confie ? Vous savez que là aussi, la Bible nous donne le moyen facile et efficace de ne pas nous égarer dans la gestion de notre argent, dans l'évaluation de nos besoins. Dans Proverbe 3, verset 9, on lit « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. » Les prémices, c'est-à-dire en premier, avant que quiconque d'autre n'en jouisse, même avant moi. Et cela parlait au peuple d'Israël, parce qu'ils devaient donner les prémices de leur récolte comme offrande à l'Éternel, avant de se servir pour soi, avant de se servir soi-même. Comment continue ce proverbe ? « Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Dieu accompagne toujours de bénédiction celui qui lui obéit. Et nous pourrions étendre facilement cette réflexion sur la gestion de biens à d'autres domaines, d'autres biens que Dieu nous confie, sur la gestion de notre temps par exemple. On n'a jamais le temps. La gestion de nos dons spirituels que Dieu nous a confiés. Qu'est-ce que je fais de tout ce plus que Dieu me donne ? Est-ce que je le consacre à moi, à mon bien, ou alors à lui ? Où est-ce que je place mes priorités ? Et je reviens à notre petite histoire du début, je n'ai pas oublié. On avait laissé notre compte de Zinzendorf dans le musée, au pied du tableau, sur lequel étaient inscrits ces mots « Voilà ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Troublé par ces paroles, le jeune comte demeure pensif. Les instants passent, le jour baisse. L'heure est venue de fermer le musée. Le gardien s'approche et touche l'épaule du jeune noble, dont les yeux sont baignés de larmes. Tournant le dos à Paris, but de son voyage, le comte Zinzendorf rentre chez lui. Vaincu par la vision du crucifié, il jette aux pieds du sauveur sa fortune, sa gloire, ses ambitions, sa vie. Il va devenir le fondateur des églises protestantes moraves et l'instigateur de ces missions qui, depuis plus de 2 siècles, ont porté dans les terres lointaines le message d'amour et de grâce de l'agneau immolé. Oui, ce comte est entré dans l'appel de Dieu pour lui et n'a jamais manqué de rien. Vous savez, nous en revenons toujours à cette opposition entre le système du monde et le royaume de Dieu. Et cette lutte entre les deux. Mais comme je l'ai déjà rappelé, nous sommes libérés de ce système. Et nous dépendons entièrement de Dieu. Et c'est un soulagement, car la responsabilité ne repose plus sur moi, mais sur lui. Alors est-ce que nous voyons la vérité que Satan essaye de nous cacher? Est-ce que nous sommes prêts à passer de l'information, parce que vous savez les choses, à la formation, et de la formation à la transformation? Ce que je sais maintenant, est-ce que je suis prêt à apprendre à l'utiliser? Et est-ce que je suis prêt à le mettre en pratique dans ma vie? Que tout ce que nous savons maintenant, à la lumière de la parole de Dieu, nous le mettions en pratique de manière individuelle, familiale, mais aussi dans l'Église. Et alors nous verrons des choses extraordinaires s'opérer, car Dieu n'a pas de limite. Et je terminerai par ce texte dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 3, verset 10. Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Alors vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Amen.